Bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue parmi nous pour cette conversation en compagnie de Yannick Hennel. Bonsoir à vous, mon cher Yannick.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là. Bienvenue parmi nous donc pour cette conversation. Comme vous le savez sans doute, Yannick Hennel est cette année l'auteur associé à cette nouvelle édition des Jardins d'hiver. À ce titre, Yannick, vous allez participer à plusieurs temps de rencontres. D'abord, cette conversation que nous allons avoir ensemble ce soir, qui aura valeur presque d'introduction, pourrait-on dire, à votre parcours et à votre œuvre. Et puis, il y aura deux autres rencontres pendant le week-end. Demain, une rencontre en compagnie d'une écrivaine, d'une poétesse qui s'appelle Laura Vasquez, que je vous invite à découvrir parce que ça vaut véritablement le détour. Yannick aura un entretien, un dialogue avec elle demain après-midi. Et puis un autre temps de rencontre dimanche en compagnie de la réalisatrice Alice Diop, là aussi pour parler à la fois de films, de cinéma, de littérature, de poétique et de politique, puisque les deux sont souvent chez vous intimement liés. Je le disais, une rencontre qui va peut-être avoir valeur d'introduction. On ne va pas pouvoir être exhaustif sur votre parcours, mon cher Yannick, mais on va essayer de s'arrêter sur quelques livres, quelques motifs de votre œuvre, quelques obsessions peut-être, mais vous nous le direz si vous acceptez ce terme-là. En tout cas, on va s'arrêter sur un certain nombre de points comme ça. Je vais vous présenter très rapidement pour qu'on voit un petit peu l'ensemble de votre œuvre, et puis on va rentrer ensuite dans le vif du sujet. Vous publiez donc des livres depuis le milieu des années 90, depuis la parution d'un roman qui s'appelle Les Petits Soldats. On y reviendra peut-être pendant cette conversation. Vous avez publié ensuite de nombreux romans, et des romans dans lesquels on trouve précisément un personnage qu'on pourrait appeler un personnage récurrent. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'un alter ego, d'un double, on en reparlera, de ce personnage de Jean Deschelle, que l'on retrouve notamment dans Cercle, qui est un livre que vous aviez fait paraître en 2007, et que l'on retrouve ensuite dans Les Renards pâles, dans Tiens ferme ta couronne. Il fait une brève apparition, presque comme un second rôle, dans un livre qui est votre roman le plus récent, qui s'appelle Le trésorier payeur, un livre dans lequel vous mettez en scène, on y reviendra aussi, ce banquier anarchiste et philosophe qui s'appelle Georges Bataille. Donc là, on a à peu près le programme de Yannick Hennel. Voilà. Et puis, vous publiez aussi des livres autour de la peinture. Vous avez notamment publié un texte autour du Caravage, un texte autour d'un peintre roumain contemporain qui s'appelle Adrian Guenillé. Et puis, ce livre très récent que vous venez de faire paraître aux éditions Stock, qui s'appelle Bleu Bacon, autour de l'œuvre de Francis Bacon, Une nuit passée avec l'étoile de Bacon, on en reparlera. Donc des livres comme ça autour de la peinture, et puis d'autres livres qui vont à des endroits différents, et notamment à la violence du siècle, ou à la violence du temps présent. Jan Karski, autour de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Et puis plus récemment, des livres qui tournaient autour du procès de Charlie Hebdo, auquel vous avez assisté. Un livre qui s'appelle Janvier 2015, Le procès, et puis un autre livre qui s'intitule Notre solitude, où vous parlez de cette traversée des ténèbres. Peut-être aura-t-on l'occasion d'en dire un mot. Et puis peut-être je vais commencer par un livre qui est un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le sens du calme, qui est un livre dans la belle collection de Colette Felous, 13 et portraits, dans lequel on demande aux écrivains de faire une sorte d'autoportrait. Alors vous avez choisi un autoportrait façon puzzle, comme on dit, des fragments, des moments de vie, comme ça. Et j'aurais aimé peut-être commencer par le commencement, d'une certaine manière. Dans ce livre, vous évoquez le premier moment, le premier instant où peut-être l'écrivain est né, ce moment où vous trouvez Jésus dans une poubelle. Peut-être pouvez-vous nous dire un petit mot de cela. C'est une pirouette, mais il me semble que c'est intéressant de comprendre aussi la naissance d'un écrivain, ou en tout cas le moment où vous datez, vous, peut-être, ce moment-là.
Mais d'abord, grand merci. Des milliers de choses à dire. Bon, je n'ai pas vraiment trouvé Jésus, encore moins dans une poubelle, mais c'est la première phrase de ce livre. On m'avait demandé d'écrire un autoportrait, et c'était un crucifix qui se trouvait dans une poubelle. J'avais 10 ans et ça me semblait immense, enfin. Et c'était, je ne sais pas, ça avait été vidé d'un cimetière. Il était un peu cassé. Et ça m'avait fait forte impression. Mais ce jour-là, parce que si je commence à raconter ça, je pense que j'en ai pour des heures, ce jour-là, effectivement, qui était un samedi, j'ai une prédilection pour les samedis depuis, il m'est arrivé beaucoup de choses. Et j'ai choisi, parce que la mémoire, comme vous le savez, est défaillante, très trompeuse, mais elle est charmeuse aussi, j'ai choisi de penser que c'est ce jour-là que me sont arrivées les choses les plus conséquentes dans ma vie. Alors, il y avait ce Jésus dans une poubelle. Voilà, il y avait c'est quelque chose d'un peu non seulement incongru, mais qui disait tout de la violence du monde. Enfin, sur là où on met le grand cœur, quoi. Mais surtout ce jour-là, je vais essayer d'être rapide. Je me souviens que j'avais 10 ans, donc j'étais en, je sais pas quoi, CM2, CM1, CM, non, peut-être CM1. On nous a passé Nuit et brouillard, le film d'Alain René. Et bon, nous étions vraiment petits. Il se trouvait que ce matin-là, notre institutrice était absente. Ça se passait dans l'Aisne, vous voyez, 02, près de Laon. Et elle avait été remplacée ce jour-là par une jeune femme, une jeune institutrice débutante, qui avait ceci de particulier, qu'elle était absolument d'une beauté inouïe. Je crois que c'était la première fois que j'avais devant moi... Mais j'étais au premier rang, j'étais un élève très sage et modèle. Mais là, je me suis dit, c'est pas mal d'être au premier rang parce que j'ai pu profiter de cette femme. Je crois que j'étais bouche bée comme un imbécile toute la matinée. Et donc, ça a été une épiphanie érotique, amoureuse. Mon premier chagrin d'amour aussi, puisqu'elle ne m'a pas considéré tellement. Mais quand même, des années plus tard, je l'ai raconté. Et ce jour-là, cette même jeune femme absolue, dont je me souviens encore du velours de sa robe, des transparences, peut-être un peu fantasmées ou rêvées, mais elle nous a passé ce film, parce qu'à l'époque, on diffusait ça à l'école. Et alors, il est possible que ça a été un peu prématuré, parce que moi, j'en suis sorti totalement traumatisé. Et dans Nuit et brouillard, comme vous le savez... il s'agit de l'extermination des Juifs d'Europe, même si le mot juif n'est pas prononcé, pour toutes sortes de raisons politiques, il faudrait faire un débat là-dessus. On est en 55, c'est fait par Alain René, le texte de Jean Cayrol, très grand écrivain sous-estimé à mon avis. Et elle savait sans doute pas trop quoi faire de nous, cette jolie dame. Et elle nous a demandé, après nous avoir asséné ce film qui nous a stupéfait, quoi. Elle nous a demandé de réagir, de dire ce qu'on en pensait à 10 ans. Bon, ok. Moi, j'ai été prof, je n'ai jamais osé faire une chose pareille avec des enfants. Et ce jour-là, et c'est à ça que je voulais en venir, c'est la seule fois de ma vie, encore une fois, bon élève, enfin, tout bien, quoi, sous tout rapport, j'ai rendu feuille blanche. Il se trouve que... c'était pas par volonté de faire le malin, quoi. Mais j'avais totalement honte de rendre feuille blanche parce que j'ai été bloqué, quoi. Il n'y avait pas de mots. Et de fait, bien des années plus tard, en y repensant, notamment en l'écrivant, je me suis dit que c'était quand même de ça dont il s'agissait. Enfin, la suspension momentanée, non pas de la compréhension, mais des mots pour le dire. Parce que précisément, s'il y a bien... Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas dire, mais s'il y avait... Je dis une chose, faute de mieux, s'il y a bien un événement qui échappe aux mots, à tel point que Claude Lanzmann a dû en inventer un, si je puis dire, enfin, prendre de l'hébreu le mot Shoah, qui veut dire anéantissement, s'il y a bien un événement qui échappe à son commentaire, voilà, surtout à 10 ans, c'est bien celui-là. Et donc, en rendant feuille blanche, là, je me justifie un peu, comme ça, des années après, peut-être que l'institutrice est parmi vous, on ne sait jamais. C'était pas si mal répondu. C'était de ça dont il s'agissait. Un blanc total dans l'histoire et dans la possibilité de dire. Voilà. Bon, j'ai raconté ça. Et puis, évidemment, ce jour-là, donc, l'horreur de ce film, la prise de conscience, le premier rapport avec le langage, parce que c'est quand on est empêché que ça commence l'écriture véritablement, c'est quand on commence à réfléchir sur les impossibilités du langage, qu'en fait on est déjà dans le langage, je veux dire dans l'écriture, dans la littérature. Et la troisième chose, l'expérience de cette merveilleuse robe et de ce visage fou, quoi, elle ressemblait, oh j'ai envie d'en parler un peu.
On lui donnera la parole, bien sûr, en fin de rencontre.
Si elle est là. Elle ressemblait, vous voyez la dame à la licorne, enfin... Bon, elle n'était pas blonde, enfin, je ne sais plus. Peut-être que oui, elle était blonde et brune. Bon, ça n'existe pas, évidemment. Mais elle était tout, quoi. Et un visage très... Oh, je m'enlise dans la... Un visage très doux, très gracieux, voilà, elle était...
Vous écrivez d'ailleurs dans ce premier texte qu'on écrit des livres pour faire parler ces instants de foudre, ces moments de révélation, ces moments, vous avez parlé d'épiphanie, il y a quelque chose de cet ordre. On a l'impression que c'est presque un programme littéraire.
Mais oui, parce que c'est comme ça, enfin je ne sais pas vous, mais c'est comme ça que je vis ma vie. Il y a des moments pas terribles, hein, enfin, des moments où je ne suis pas très en forme, mais peu importe, ce n'est pas la question de l'emploi du temps, c'est la question des moments d'exception. Voilà. Et je pense que ce qu'il y a de beau, enfin, c'est ma démarche, c'est ma politique personnelle, c'est d'aller vers l'intensification de ce qu'on aime. Et d'arriver finalement, bon ça c'est une utopie, à ne plus faire que vivre ce qu'on aime. Ça c'est l'idéal évidemment. Et donc quand on m'avait proposé à l'époque d'écrire une espèce d'autoportrait, j'avais 40 ans, je me disais je vais pas raconter ma vie, enfin, je me disais fait que commencer mince. Je me suis aperçu que c'était des instants qui me plaisait. C'était pas de longues séquences, c'était pas des séjours, c'était pas des périodes, c'était pas des époques, mais des instants parfois de quelques minutes. Alors il y avait ce samedi là, ce fameux samedi inoubliable, mais il y avait parfois des arrachements à soi. Il y avait des coups de foudre devant des œuvres qui durent une minute, mais qui semblent durer une vie entière. Et voilà, bon, le rapport qu'on a avec le temps est tissé de vitesse et de lenteur. Évidemment, c'est une banalité que de le dire, mais finalement, j'aime penser à ma vie et à celle des gens que j'aime comme à une mosaïque où tous les instants qu'on a aimé vivre, les instants qu'on a vraiment vécu, se rejouent en même temps, simultanément. Vous voyez, c'est comme si on avait une mémoire physique qui transportait dans nos bras, dans nos jambes, dans notre cœur, dans notre gorge, dans notre sexe, tout ce qu'on a vécu de beau et qu'on peut rassembler en écrivant. C'est ça la vertu pour moi de la littérature, c'est cette mémoire qui d'un coup vient nous nourrir, comme si on avait un stock de sensations. Alors je ne sais pas, j'ai hâte de rencontrer Laura Vasquez demain parce que je crois que on pourrait appeler ça la poésie, je ne sais pas si elle sera d'accord, enfin d'être à la pointe de la sensation et de savoir la dire.
Encore une petite chose sur ce livre, et puis on va rentrer ensuite notamment dans Cercle. Ce livre-là, Le sens du calme, il déploie aussi une sorte de géographie personnelle, de géographie intime, d'une certaine façon. Il y a notamment la chambre africaine, l'enfance en Afrique, à Niamey, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a ce pensionnat militaire qui sera à l'origine, d'une certaine manière, de Les Petits Soldats. Il y a cette rivière alsacienne, l'Échelle, qui donnera son nom à votre personnage récurrent. Peut-être nous dire un petit mot de cela rapidement pour situer la géographie intime de lieux qui sont des lieux que l'on retrouve aussi au fil de vos œuvres et au fil de vos livres.
Bah, c'est ma mythologie personnelle, enfin, c'est mon rapport aux choses aimées. Alors, ce sont des lieux, effectivement, je n'ose pas encore écrire, vous voyez, à 56 ans, un livre sur les années que j'ai vécues en Afrique, parce que mon père était coopérant, il était militaire. Et parce que c'est encore trop pour moi. Enfin, c'est un excès foisonnant de sensations, de bonheur. Le vert paradis des amours enfantines, comme dit Baudelaire. Et j'ai peur de ne pas être à la hauteur de... C'est si souverain et si fragile, ces années que j'ai passées là-bas, au Sénégal, deux ans au Niger, à Djibouti, puis des péripéties comme ça au Mali, dans le désert. C'est si précieux, c'est une matière si... infinie, enfin vertigineuse, que j'ai peur de ne pas bien le raconter. Enfin. Et donc j'attends, un jour j'espère y arriver. Et de temps en temps, je fais des incursions africaines, comme ça, où il y a des réminiscences qui viennent dans certains de mes livres, même dans le dernier, dans Bleu Bacon. Et il se trouve qu'effectivement, cette chambre, en 79, pendant un an, en gros, cette petite chambre avec un ventilateur, on mourait de chaud au Niger avec la moustiquaire et puis des hantises d'enfants, un placard bien trop grand et qui, à mes yeux, contenait des monstres, vous voyez. Et puis les premières insomnies, enfin quelque chose de fiévreux, de tendu. C'est Francis Bacon, le peintre là, que j'aime particulièrement, qui dit « Je suis toujours sur le qui-vive, je n'ai jamais été non relaxé ». Je pourrais un peu dire ça aussi, mais c'est pas une nervosité spéciale, c'est quelque chose qui me vient de l'enfance, de ces années-là où je guette, je ne sais pas comment dire ça, à la fois la menace... Mais je guette aussi la merveille. Je veux pas rater le surgissement de la chose la plus belle qui est là à chaque instant et qui doit se déplier. Et je veux me rendre disponible. Quand j'étais petit, je voulais pas dormir. C'est très classique. Hein. Tous ceux qui ont des enfants savent que c'est franchement un calvaire. Mais c'était ça, en fait. Je me sentais comme un chasseur africain. Mais un chasseur doux, vous voyez. Il y a une phrase, je dérive un peu, il y a une phrase du livre des pharaons que j'aime beaucoup qui dit « L'homme doux pénètre les obstacles ». Ça pourrait être sagesse africaine aussi. Et je pense que par le biais de la douceur, qui pour moi est liée intimement à l'idée que je me fais de la littérature, par le biais de la douceur, on se rend disponible aux choses, on les entend de l'intérieur. Et bon, voilà, pendant cette année un peu bizarre, où on avait, en Afrique, on a cours que le matin, il fait beaucoup trop chaud, l'après-midi, on reste dans notre chambre. Ma sœur était dans un coin, dans sa chambre, et moi j'étais livré à moi-même, et je me suis mis à écrire des conneries, enfin. Et puis je faisais des découpages, et je recopiais des encyclopédies, j'étais féru de toutes les religions animistes, enfin les religions africaines, et j'avais un panthéon qui venait des Dogons, enfin. Et voilà, je tapissais ma chambre avec des sans doute des personnages très inquiétants et qui d'ailleurs me fichaient les jetons. Enfin, la nuit, quand je les voyais, des statuettes de sorciers et puis un poster de David Bowie de l'époque Ziggy Stardust. Vous savez, quand il ressemble à un renard avec sa crinière rousse et puis il a un éclair bleu et rose. J'ai une passion pour Ziggy Stardust. Je le prenais vraiment pour un dieu, en fait. Ben voilà, il était déjà là. Et la seule fois dans ma vie où je peux dire, c'est une inquiétude que j'ai, j'aimerais avoir un esprit plus religieux, la seule fois où je suis sûr d'avoir cru en un dieu, c'était en Ziggy Stardust à 12 ans, ça c'est sûr.
Peut-être avancer un petit peu et arriver à ce livre qui s'appelle Cercle. C'est un livre d'abord qui a été important parce que, il me semble que dans votre parcours, c'est le livre peut-être qui vous a ouvert à un plus large public, à une reconnaissance très forte d'un point de vue critique. C'est un livre dans lequel il y a ce personnage de Jean Deschel et c'est un personnage qui va aussi ancrer un certain nombre d'autres personnages qui se situent, alors je ne sais pas s'il faut dire en quête de liberté, en quête de marginalité, qui se met à l'écoute de son propre désir ou qui décide de ralentir, de s'arrêter par rapport à la marche de la société. Cette rencontre, les organisateurs l'ont appelée « reprendre vie ». Et c'est la première phrase, effectivement, de Cercle. C'est maintenant qu'il faut reprendre vie. Peut-être s'arrêter là-dessus, à la fois sur ce livre et puis sur cette dimension-là, je dis la quête de liberté, on pourrait dire la quête d'absolu. C'est le moment où vous placez vraiment cette chose-là dans Cercle, me semble-t-il.
En effet, c'est un livre qui... C'est pas mon premier livre, et pourtant, à un moment de ma vie, vers 35 ans, j'avais écrit quelques livres, mais je sentais que c'était pas encore ça, enfin. Bon, c'est jamais ça, hein. Mais c'est presque ça, parfois. Mais je me disais, bon, cette fois-ci, ça suffit. Je vais créer les conditions dans ma vie pour vraiment écrire une chose dont je pourrais me dire, voilà, je l'ai tenté au moins, le grand livre, le grand roman européen, je me disais ça avec une espèce de fierté, je vais écrire le grand roman européen. Non pas pour surclasser toutes les littératures, mais un roman justement qui sort de mon petit périmètre, à l'époque je vivais à Paris, et je me disais, il faut sortir de sa vie. Et le problème, c'est que du coup, j'ai pris cette injonction que je me faisais à moi-même, vraiment de manière littérale, j'ai tout quitté. La femme avec qui je vivais, la pauvre, enfin, les écrivains sont un peu bizarres, mais mon métier, tout, enfin, même le rapport avec l'argent, enfin, j'ai tout fichu en l'air pour me mettre dans une situation comme un artiste, au fond, dans une situation expérimentale à partir de laquelle je n'avais plus le choix. Et je me suis donc décidé à me prendre pour un personnage que je n'étais pas vraiment. C'était le personnage que je projetais. Je me disais, si j'étais un héros comme ça, un héros de la fin du XXe siècle, du début du XXIe, quelle vie j'aimerais vivre ? Une vie de liberté, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on met sous ce mot ? Encore faut-il se jeter dans cette liberté, en souffrir même d'ailleurs, et pour en jouir. Et donc j'ai inventé ce personnage, un double, enfin un genre d'échelle. C'est moi en mieux, mais en pire aussi. Et du coup, j'ai commencé à vivre un peu comme lui, c'est-à-dire que bah, comme j'avais plus aucune attache, parce que j'avais tout fichu en l'air dans ma vie, bah, je suis parti. Je suis parti comme lui. Je suis parti d'abord à Berlin, parce que c'était un vieux fantasme, là aussi, David Bowie, d'écouter les disques de David Bowie. De ça. Bon, je suis allé m'établir là-bas, dans une petite chambre, pour trois fois rien. Enfin, et j'avais quelques économies, parce que j'avais été prof, donc c'était ma vocation. Enfin, c'est une vocation que j'ai contrariée. Enfin, j'ai été prof très tôt, enfin, à 21 ans, jusqu'à 35 ans. J'ai pris ma retraite à 35 ans, vous voyez. Et c'est un désastre, hein, évidemment, pour la retraite. Et donc, je notais tout ce qui m'arrivait, parce que pour peu qu'on prenne la décision de se rendre disponible à tout, aux autres, bah, la vie devient passionnante. Hein. Le moindre détail s'ouvre à vous, vous semble destiné. Et puis, je suis allé j'ai loué une petite voiture, je suis allé jusqu'aux confins de la Pologne, Prague aussi. Je pensais à l'époque, je le pense toujours, c'est absolument sans raison, hein. Je veux dire, c'est pas justifiable, que c'est à l'Est, c'est vers l'Est que va le récit. Je me disais, le récit va s'accroître à mesure que j'irai vers l'Est. Bon, moyennant quoi, j'écrivais comme ça, comme un fou, comme un illuminé, comme un poète, comme le poète que je me rêvais être, sur des cahiers, des petits cahiers Clairefontaine, là, grand carreau. J'ai toujours écrit à la main, et c'est une méthode désastreuse, parce qu'après, quand il faut se retrouver les choses, les taper, bon... Et de cette matière enflammée, avec toutes sortes de rencontres, enfin des rencontres magiques, parfois nulles, désastreuses, des embardées un peu à la Kerouac, enfin, et puis des découvertes culturelles, et puis l'obsession aussi pour les lieux de mémoire de la Shoah aussi. Je tournais autour en voiture de location, là en Pologne. Je me perdais, en fait. Et puis surtout, le temps. Le temps était là, à disposition. J'ai vécu comme ça des mois et même des années d'une liberté inouïe, enfin, de détresse aussi, parce que j'avais choisi cette solitude-là. Mais au fond, c'est ça qui m'a fait vraiment entrer, si je puis dire, je ne sais pas si on y entre, mais en littérature. Là, je me suis dit, j'ai mené cette expérience, j'ai fait ça, et puis quand il s'est agi de mettre tout ça en livre, j'ai repris tout ça, ça faisait 2500 pages, figurez-vous. J'ai évidemment réduit, mon éditeur était affolé, quoi. Il me dit, vous êtes fou, mon cher. Et je prenais ça comme un compliment. Et ça fait 500 pages, c'est déjà pas mal. Mais c'est une véritable odyssée. Et je me disais, bon, voilà, à partir de là, je me suis dit, il va falloir se tenir dans la fidélité à ce premier geste que j'avais initié moi-même, sans que personne me le demande, dans ma vie, dont je n'héritais pas. C'est la première fois que je prenais vraiment une décision comme ça, un peu irraisonnée, sur un coup de tête, comme on dit. Et ce coup de tête m'a fondé. Et je me suis dit, maintenant, il faut plus détourner de ce cap. J'appelais ça le cap au libre. Cap au libre. Je me disais ça tout seul dans ma voiture de location, voilà, en me récitant des pages.
Il y a quelque chose qui est ancré aussi très fort dans Cercle tout de suite, c'est le rapport à la littérature, et à deux égards, parce que la forme de Cercle en trois parties, oui, fait directement référence à la Divine Comédie, même si vous avez, tordu d'une certaine manière, ou inversé. Et puis, il y a d'emblée le personnage Jean Deschelles qui est en quête de livres. Parmi les rencontres, il y a aussi la rencontre des livres, notamment Moby Dick, qu'on retrouvera à d'autres endroits dans l'œuvre. Mais il y a tout de suite cet ancrage aussi dans la littérature. Vous êtes un écrivain lecteur et vous inscrivez vos pas, en tout cas, dans une forme d'héritage littéraire. C'est quelque chose qui caractérise aussi votre rapport à l'écriture.
Ben, je ne sais pas comment font les autres, mais je pense que... moi, en tous les cas, je mets des livres dans mes livres. Et puis, parce que c'est ma passion première, principale, enfin, c'est lire, quoi. C'est jusqu'à l'épuisement. Enfin, encore aujourd'hui, je suis heureux que cette passion soit inextinguible. J'ai soif, voilà. Je suis quelqu'un de ce qu'on appelle précisément d'intempérant. L'intempérance, c'est quand le désir ne vise pas à se satisfaire, mais à rester un désir sans cesse qui se renouvelle. Et c'est l'amour, quoi. L'amour fou. Et avec la littérature, pas nécessairement l'écriture. Hein, parfois, comme tout le monde, j'écris moins ou j'arrive moins bien à écrire. En général, je fais partie des écrivains qui écrivent beaucoup et tous les jours. Mais la lecture, ça, c'est ma passion principale. Enfin, c'est ma bien-aimée. Enfin, et je lis beaucoup de livres en même temps. Je relis. J'ai une bibliothèque. C'est l'orgie chez moi. Enfin, il y en a jusqu'au plafond partout. C'est n'importe quoi. Mais j'aime ce château enchanté que je transporte avec moi, où la féerie est là. Et ça m'a toujours sauvé, en fait. Et même dans les moments les pires, je sais pas, ça, je vais pas dramatiser, mais les moments comme ça d'abandon de ma vie, et même quand dans mon épopée un peu foireuse, là, avec cette voiture de location, quand je me retrouvais sur les routes de Pologne orientale, je comprends pas le polonais, donc pour sinuer sans carte, c'était un peu limite pour lire les pancartes, j'avais mon carton de livre. Je dormais dans la voiture, parce que j'avais loué un break, et puis j'avais mis un matelas. Mais c'était la belle vie, vous ne pouvez pas savoir. Enfin, c'était, je ne sais pas, j'étais allumé, quoi. Et ce feu avec un carton de livre, une lampe torche, et puis la possibilité de se moquer totalement des horaires, d'aller prendre un café dans une auberge, pas possible, là, près de Lublin, en Pologne orientale, ou dans un bled à côté de Prague, ou même en banlieue parisienne, où je vis maintenant. Mais pour moi, ça a toujours été l'aventure. Enfin, je sais pas, peut-être je suis un peu ahuri comme type, mais ça me suffit, en fait. Et donc, la littérature, bien sûr, la littérature, en fait, secrètement, est toujours une ode à la littérature. Et moi, j'ai une dévotion particulière. Ça a pris la place de la religion chez moi, la littérature. Donc Kafka, Melville, Bataille, Proust, Christina Campo, Duras, Moby Dick. J'en ai parlé tout à l'heure. Peut-être certains et certaines étaient là, de mes livres préférés. Mais en fait, j'en ai 500 de livres préférés, 1000. Enfin.
Il va nous falloir quelques heures. Peut-être pour poursuivre sur finalement l'avancée aussi de votre travail, j'ai évoqué deux autres livres où on retrouve ce personnage de Jean Deschel, c'est Les renards pâles et puis c'est Tiens ferme ta couronne. Et peut-être parler de ces deux livres sur des questions un peu spécifiques. Il me semble que sur Les renards pâles, il y a de nouveau un personnage qui se met au banc de la société, qui va décider de vivre dans sa voiture et puis qui va petit à petit aller vers une dimension plus politique au monde, une sorte d'inscription dans la révolte. Peut-être nous dire un petit mot de cela. On traverse un peu rapidement, mais il me semble que c'est intéressant pour le public de comprendre ces enjeux-là aussi des différents livres. Les renards pâles, vous diriez qu'il y a quelque chose de cet ordre, de plus explicitement politique, une volonté d'inscrire cette dimension-là de manière plus forte?
Oui, Les renards pâles, c'est un livre, c'est tout petit, hein, c'est comme une maquette. Je rêvais d'écrire une grande épopée. Une épopée politique, l'épopée de ce qu'on appelle aujourd'hui, en les nommant mal, ce qu'on appelle les migrants. Je trouve ça moche comme terme. Et les réfugiés, disons, les exilés. Et j'ai toujours vécu à Paris. Moi, je suis de Rennes, de Nantes, de villes de l'Ouest. Mais très vite, jeune prof, j'ai été balancé en banlieue parisienne. Donc, j'ai vécu à Paris. Voilà, ça fait 30 ans que c'est dur. Et maintenant, à nouveau en banlieue. Et j'ai toujours vécu dans des quartiers africains. Et comme je vivais enfant en Afrique, vous voyez, j'ai une espèce d'amour en fait pour les Maliens notamment. Je vis dans un quartier malien à Montreuil. Et bon, c'est ma vie. Et je me sens une communauté d'esprit. Et j'ai voulu, avec Les renards pâles, peut-être je me suis mis un peu trop à découvert dans ce livre. On m'a vraiment fait des remontrances à l'époque. Le milieu de la littérature est très bourgeois. Et comme je prenais fait et cause dans ce livre, pour une espèce de... Bah, c'est une fiction politique, pour une espèce d'insurrection des sangs, des sans-papiers, des sans-domicile fixe, de tous les sangs, la communauté des sangs, S-A-N-S, et que j'imaginais une insurrection masquée, enfin avec un masque, dans Paris, ça a un peu déplu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'époque où le président de la République s'appelait Nicolas Sarkozy, et il avait inventé ce truc avec un certain Brice Hortefeux, qui s'appelait le ministère de l'identité nationale. Bon, aujourd'hui, on se dit c'est ahurissant. Bon, je sens que ça va... Enfin, on sent tous que ça risque de revenir, mais bien plus fort. Mais Paris avait le... Enfin, en France, il y avait le record de garde à vue en Europe, où tous mes amis se faisaient arrêter, une espèce d'intellectuel inoffensif dans Paris, pour n'importe quel... Bon, bref. Et j'avais essayé de cristalliser, là, dans un roman... cette hantise politique d'être menacé par une autorité abusive, quoi, comme toute autorité. Et bon, je ne sais pas trop comment raconter ça, mais c'est un livre très politique, effectivement. C'est un livre qui devient un manifeste. Je rêvais aussi d'écrire une petite fiction d'un type qui se promène dans Paris, comme je fais, moi, qui finalement se met à vivre un peu parce qu'il n'a pas fait attention, il ne paye pas son loyer, il est un peu distrait, quoi. Puis il a pas fait, enfin il gagne pas beaucoup d'argent et il se retrouve à vivre dans sa voiture, mais de manière c'est pas tragique, disons, il s'en fout d'ailleurs, ça va très bien, enfin. Et d'un coup il se retrouve au cœur involontairement d'une insurrection, il devient peut-être même l'instigateur de cette insurrection, il y a des choses qui s'écrivent sur les murs. Et au fur et à mesure de cette fantaisie politique, fantaisie très sérieuse, je me suis mis finalement à adopter le ton du manifeste. C'est-à-dire les renards pâles. Le renard pâle est l'un des dieux de la cosmogonie Dogon. C'est un dieu un peu anard, un peu anarchiste. C'est le mauvais fils. Vous savez, dans toutes les religions, il y a ça. Il y a le modèle du mauvais fils que le père fondateur rejette, qui est un peu le malin, enfin Satan, disons. Et moi, je le voyais dans le poster de David Bowie, là, le renard pâle, vous voyez, ça a toujours été mon dieu, mes héros, ça a toujours été des gens comme ça qui cristallisaient une puissance spirituelle et en même temps quelque chose, comme vous le disiez, d'un à côté, enfin, pas des parias, mais des gens qui ne souscrivent pas à la société et qui sont légèrement à côté, parce que c'est la position de l'écrivain pour moi. C'est la position la plus intéressante. Enfin, dans la vie, je n'ai pas nécessairement cette position. J'aime participer, j'aime en être, j'aime la présence. Mais quand on écrit, on est juste à côté de biais. Vous voyez, les obliques deviennent passionnantes, les obliques deviennent poétiques et politiques. Donc voilà, ce livre, j'en ai du coup beaucoup parlé, Les renards pâles.
Peut-être dire un mot du suivant et puis après on va arriver à la peinture et à Bleu Bacon, mais parler quand même de Tiens ferme ta couronne, peut-être à l'aune de deux dimensions qui me semblent très fortes. C'est le rapport peut-être, j'ai parlé du mal, de la violence, de l'histoire. Ce livre-là met en scène un personnage qui veut adapter Moby Dick au cinéma et qui voudrait que ce soit Michael Cimino qui le tourne. Donc il y a quelque chose autour de Voyage au bout de l'enfer, autour du chasseur et de la proie, toutes ces dimensions-là. Et puis, il y a à l'intérieur deux choses qui ont à voir avec la violence de l'histoire. C'est le livre de Reznikov qui s'appelle Holocauste, qui fait référence, bien sûr, à aussi ce que vous avez pu traiter dans Karski, ce que vous avez évoqué lors de votre voyage vers l'Est. Et puis, une violence de l'histoire plus contemporaine, qui sont les attentats de 2015, que d'ailleurs le personnage vit à côté, puisqu'il est en train de se saouler dans un bar au moment où les choses se produisent. Peut-être nous parler de ces deux lames de fond. Je vous demande des choses difficiles, parce que c'est des très gros enjeux à évoquer de manière un peu brève, mais il me semble que cette violence de l'histoire et la manière dont on s'inscrit dedans, ou dont on met des mots dessus, est au cœur de ce livre-là, Tiens, ferme ta couronne, même si par ailleurs il fait preuve aussi de fantaisie, voire de burlesque, pourquoi pas.
Ah bah, je suis content que vous parliez de burlesque. Moi, mon idéal, vous voyez, je commence par là, mais je vais répondre à votre question. Mon idéal, ce serait un mélange de Buster Keaton et de Saint-François d'Assise. Vous voyez, ça serait génial. Mais bon, il y a du boulot parce que faudrait que ce soit presque au bord de la sainteté, enfin une chose, arriver à, par le langage à être à hauteur comme ça de la caritas, voyez, du cœur qui comprend, comme on dit dans la Bible à propos du roi Salomon, le cœur qui comprend, et en même temps d'avoir l'humour fou, quoi. Et puis l'humour, on ne peut pas vouloir l'avoir, parce que si on veut être drôle, alors là, on devient con, quoi. Bon, alors, c'est pour dire que « Tiens, ferme ta couronne », c'est un livre qui est illuminé comme ça le fait de tomber comme ça des deux côtés, d'aller vers une sainteté bizarre et puis de sombrer dans le burlesque le plus débile, quoi. Mais la question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'il est possible d'être un poète ? Parce que moi, je ne fais pas de poésie, enfin, je n'écris pas des vers. Mais je veux dire, dans la vie, c'est quoi avoir un regard poétique sur les choses ? C'est quoi vivre poétiquement ce qu'on vit, c'est l'amour, l'amitié, le travail ? Vivre poétiquement, c'est aussi ouvrir le temps, avoir cette capacité à ne plus s'enfermer, mais être constamment avec les étoiles, enfin, mais aussi avec le chaos du monde, parce que pour moi, un poète, c'est pas quelqu'un, ou une poétesse, c'est pas quelqu'un qui se détourne de la tournure maléficiée du monde, c'est au contraire quelqu'un qui l'entend et qui parvient à la transfigurer. Alors tiens, ferme ta couronne, c'était mon interrogation. Interrogation d'autant plus brûlante que, bah, comme tout le monde, puisque ça se passe en 2015, ce livre, comme tout le monde, j'avais été frappé de plein fouet au moins deux fois, en janvier et en novembre, par les attentats. Oui. Et d'autant plus frappé que, en janvier 2015, quelques semaines après les attentats contre Charlie Hebdo, l'hypercacher et la policière Clarissa Jean-Philippe, j'ai reçu un coup de fil étrange d'une amie, que vous connaissez peut-être, la romancière Marie Dariussec, qui me disait « Je viens d'être engagé par Charlie Hebdo, il cherche des écrivaines, des écrivains, est-ce que tu en es, oui ou non, il faut que je... t'as 30 secondes parce qu'il faut que je les rappelle. » J'ai dit oui, ok, sans me rendre compte de ce que je faisais, parce que je trouvais que c'était la chose à faire de dire oui, mais c'était pas trop mon truc, moi, Charlie Hebdo, vous voyez, je lisais Rimbaud, Kafka, je dis pas que Charlie Hebdo, c'est pas la même chose, mais c'est un autre univers, c'était pas... Mais j'ai dit oui, et je me suis retrouvé à être à la rédaction de Charlie Hebdo tout de suite après les attentats, ils étaient à Libération à l'époque, et puis après, il y a tout plein d'aventures que j'ai vécues avec Charlie Hebdo, notamment le procès. Mais dans ce roman, je voulais aussi donner le pouls, vous voyez, l'agitation, la température psychique qu'il y avait à Paris, une espèce de chose étrange qui a duré toute l'année et bien plus, de menaces et de choses un peu folles. Enfin, les soirées n'étaient pas les mêmes, enfin, je ne sais pas comment dire ça. Et ce personnage... un type bizarroïde, un peu un loser qui veut raconter la vie de Melville sur 700 pages. Évidemment, aucun producteur ne veut financer son film. J'ai imaginé sa vie et comme dans les films un peu fauchés, vous voyez, dans les productions françaises, les films d'auteur que j'adore, j'ai utilisé le décor que j'avais, c'est-à-dire chez moi. Donc c'est un livre qui se passe dans mon salon, sur mon divan. Sauf que j'ai projeté un type, hein, une espèce d'hurluberlu, qui est passionné de cinéma, comme je l'ai été. Quand je vivais à Rennes, d'ailleurs, c'était ma passion principale, la cinéphilie. Je voyais 4 films par jour, enfin, c'était fou et merveilleux. Grâce à la bibliothèque universitaire, où il y avait des écrans, on pouvait regarder des Romer, des Godard, des Pasolini, tout. Bref, et ce type regarde des films toute la journée. Et sa théorie, c'est que dans tous les films, il y a un moment où on voit un cerf qui passe avec ses bois. Et faites l'expérience, vous allez voir. Si, c'est un bon film. Hein. C'est un personnage un peu fantasque. Je ne sais pas si je réponds à votre question, d'ailleurs, je l'ai oublié.
C'était sur la résurgence de l'histoire et sur ce moment-là aussi, effectivement, et la façon dont la violence de l'histoire percutait le personnage de ce livre. Ouais.
Comment est-ce qu'on endure ça, voilà, quand on est quelqu'un qui a les sensations à vif, voilà, c'est... Moi, j'aime bien qu'un roman ne se cantonne pas à raconter seulement une histoire, mais quand il y en a plein, bon, c'est des histoires d'amour, hein, que je raconte, parce qu'évidemment, il va rencontrer une femme qui va relancer, qui qui va le remettre en vie, au fond, ce type qui est un peu paumé, presque innocent. Mon personnage préféré dans la littérature, j'aurais pu en parler d'ailleurs tout à l'heure, c'est le prince Michkin dans L'Idiot de Dostoïevski. C'est quelqu'un qui est presque un saint, mais qui est aussi un peu loufoque, et qui a un rapport avec les autres d'étonnement et d'absence d'autorité. Voilà. Il ne veut absolument exercer aucun pouvoir. Alors ça, c'est une chose que les hommes politiques feraient bien de méditer un peu, mais en tous les cas, moi, ça me fait réfléchir. Voilà.
On va parler un petit peu de ce Bleu Bacon, hein, le nouveau livre que vous avez fait paraître là aux éditions Stock, dans cette belle collection Ma nuit au musée, et qui fait suite à d'autres écrits, je le disais en introduction, autour de la peinture. J'ai parlé du Caravage, j'ai parlé de Guenillé, qui est un auteur, un peintre plus contemporain. On pourrait ajouter Delacroix. Peut-être avant de rentrer dans Bacon, nous dire un mot de cela. Je crois que le Caravage est le premier moment où vous avez vraiment pensé l'écriture sur la peinture. On va bien sûr entrer dans Bacon et dans ces livres-là, mais peut-être nous dire un mot de la façon dont vous envisagez ces livres. Est-ce que vous les envisagez ensemble, d'ailleurs, Caravage, Delacroix, Guenillé, Bacon, d'une certaine façon? Et qu'est-ce que vous avez envie de chercher là-dedans? Est-ce que c'est d'expliquer le rapport que vous avez à la peinture, en tant qu'écrivain et en tant qu'homme? Est-ce que c'est une manière d'inscrire le langage pictural dans le langage littéraire? Comment est-ce que vous envisagez finalement ce rapport-là à la peinture, aux œuvres et ces quatre livres qui pourraient être placés presque ensemble dans la bibliothèque?
Mais c'est vrai que tout ce que vous avez dit est juste. Hein. Je dis oui à tout, enfin à tout ce que vous dites là. Mais je vais essayer d'approfondir aussi. Comment dire ça? La peinture est devenue au fur et à mesure de ma vie, et ma vie plus récente, une passion fondamentale. Enfin, parce que, pour toutes sortes de raisons, enfin, je crois que face au tableau que j'aime, je sens que mon regard, je sens que mon regard se concentre à nouveau. Je ne sais pas vous, mais je sens que j'arrive moins à me concentrer qu'avant. Je sens que je suis constamment requis, sollicité, mobilisé par une espèce d'affolement d'informations, de je sais pas quoi, de mails, de choses à faire. Enfin bon, c'est la vie même, c'est sa beauté. Mais l'écriture me permet à ceci de beau, qu'elle me permet de concentrer mon désir et mes capacités. Et il se trouve que la peinture comble un désir qui m'est inconnu. Un désir qui est sans objet. Alors vous me direz, peut-être c'est la beauté, je ne sais pas, mais parfois j'aime des peintures qui ne sont pas nécessairement belles. Francis Bacon, ça fout les jetons un peu quand même. Mais non, c'est un transfert d'intensité. Je sens qu'il peut nous arriver des choses avec les œuvres d'art que nous aimons qui relèvent parfois d'une histoire plus belle qu'avec certains êtres, enfin. Mais il se trouve pour, ça a l'air d'être une anecdote, mais ça n'en est pas seulement, vous vous souvenez de l'institutrice dont je vous ai parlé, enfin voilà, j'y reviens, mais il se trouve qu'il y a eu une deuxième femme un peu après, tout aussi idéale et tout aussi intouchable, si je puis dire, puisque c'était un tableau. Je fais partie de ces cinglés qui peuvent tomber amoureux d'une image. Et ça soigne peut-être, mais je ne veux surtout pas être soigné. Et c'était là-haut, dans un pensionnat militaire, où j'ai eu un coup de foudre. Mais je me souviens encore du moment précis où j'ai découvert, dans une encyclopédie de la peinture, enfin une espèce de livre, un peu de vulgarisation, un visage. C'était un détail, hein, c'était coupé ici au buste, un visage comme dit le docteur Lacan, j'ai rencontré l'objet de mon désir. Waouh. Et là, j'avais 15 ans. J'étais comblé. Je me disais, c'est bon, c'est fait. Et sauf que c'était du papier. Je savais pas qui était cette femme. Enfin, elle était merveilleuse. Elle avait les sourcils froncés. Vous me direz, c'est ça qui vous plaît. Elle avait les sourcils froncés et ce froncement était repris dans son corsage qui était lui aussi froncé et qui faisait apparaître une poitrine, évidemment, qui me stupéfiait. Moi, j'étais là à 15 ans, dans ce que je pouvais en voir. Enfin, je veux dire, elle n'était pas nue, hein, c'était un beau corsage. Et ce visage d'une douceur qui me rappelait une certaine institutrice, enfin, approfondissait quelque chose pour moi du monde. Tout est devenu beaucoup plus passionnant pour moi dès que j'ai vu ce petit morceau de peinture, en noir et blanc en plus, dans un mauvais livre. Et bon, et je l'ai découpé au cutter, voilà, les psychanalystes vont se régaler, en me cachant, pour pas que la personne qui tenait la petite bibliothèque là, de mon pensionnat le voit. J'ai découpé ça soigneusement, je l'ai pris, je l'ai gardé, quoi, pour la regarder tranquillement dans mon lit. Et des années plus tard, je vous jure que tout ça est vrai, enfin. Et des années plus tard, à 30 ans, je crois, parce que je ne savais pas qui avait peint ça, je m'en foutais un peu à 15 ans, enfin, je n'avais pas regardé, quoi. Un jour, à Rome, au Palazzo Barberini, merveilleux petit musée, je la rencontre. C'est un tableau du Caravage. Mais elle était en couleur, en plus, encore plus belle. Mais le problème, c'est que j'ai eu un choc parce qu'elle était en train de découper la tête d'un homme. Bon, mon psychanalyste imaginaire m'a dit, c'est toi. Et ça a été le début de ma passion pour la peinture. Voilà. Et bon, vous voyez, j'ai des rapports un peu aphrodisiaques avec la peinture, qui sont un peu hétérodoxes. J'y projette des choses, évidemment, mais ça me fait aussi, je me documente aussi. Je veux savoir, donc je vais tout voir, je lis des choses sur l'histoire de l'art. Et au fil des années, en fait, de manière passionnée, comme ça, ça a pris une place prépondérante, enfin, dans ma vie intérieure très agitée. Et j'y ai consacré des livres, voilà, Le Caravage, j'ai raconté ça, et puis c'est un livre plus sérieux aussi sur le Caravage, sur l'énigme, parce que je pose une question à la peinture, voilà, je veux comprendre, enfin, je veux aimer, et il me semble que dans la peinture, il y a quelque chose, même la plus figurative, qui échappe au visible. La peinture, comme la photographie, enfin, on le sait tous intimement, nous donne à voir quelque chose qui est en retrait, enfin, qui peut-être n'apparaît pas, mais c'est à l'intérieur. Il y a de l'invisible dans la peinture. Il y en a dans la vie, mais c'est très difficile à percevoir. Dans les œuvres, j'ai envie de dire que je vois l'invisible. Je ne saurais pas où il est, mais c'est ça qui me frappe. Et alors, j'aime les peintures... j'ai un goût particulier, voilà. J'aime les peintures qui sont un peu, elles aussi, passionnées, enfin. Et donc, j'aime les peintres comme le Caravage, Delacroix, Francis Bacon, bon, des peintres un peu virevoltants, et qui ont... Ce n'est pas des peintres vraiment violents, mais c'est des peintres qui ont peint la violence du monde et qui, je dirais, la dénude et nous la donne à voir avec une douceur qu'on peut... Une douceur nouvelle, enfin. Voilà, c'est... La peinture, c'est... Et puis, je trouve, juste pour finir, que notre rapport aux images est devenu si dévorant, enfin, à notre insu, que c'est pas mal d'arriver, enfin, dans ma vie, à se fixer tranquillement, longuement, très longuement, le plus longtemps possible, sur une chose. Alors, en général, c'est sur un visage, le visage d'une personne qu'on aime, et ça, c'est la grande chose. Mais les œuvres d'art sont des substituts au visage de la personne qu'on aime, si je puis dire. Enfin, et parce que c'est une matière sensible, une matière qui vit, qui n'est jamais la même, et dont on ne sera jamais rassasié. Voilà.
Vous parlez de la douceur et finalement du regard qu'on peut porter sur les œuvres de Bacon. Et il y a d'abord cette violence dans le rapport aux œuvres de Bacon. Et finalement, le livre, il tire vers quelque chose qui a une réflexion qui a à voir avec la douceur, avec la volupté même, c'est ce qui est en exergue du livre. Et notamment autour de cette couleur, de ce bleu. Alors, je ne sais pas si c'est le bleu nuit, comme il est dit dans le livre, Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a à voir avec cela, non pas la violence, mais une forme de douceur. Et finalement, cette vision de l'œuvre de Bacon, elle est mise en parallèle avec votre trajet. Ce que je n'ai pas dit, c'est peut-être pour préciser très vite, c'est que cette collection Ma nuit au musée est une collection dans laquelle l'éditeur demande à un écrivain d'aller passer une nuit dans le musée de son choix. Yannick a donc choisi Beaubourg, où il y avait cette expo, c'était en 2019, sur Francis Bacon. Et ce qui est raconté au tout début du livre, c'est que vous arrivez, vous êtes d'abord pris par une terrible migraine ophtalmique, il y a une sorte de violence dans un premier temps, dans le rapport. Et puis après, il y a quelque chose qui va vers la volupté ou vers la joie. Donc le trajet finalement de Bacon est presque le trajet que vous avez, vous, pendant cette nuit-là.
Bah, vous avez très bien résumé ma vie, qui s'est concentrée en une nuit, vous voyez. Et, c'est-à-dire arriver à traverser l'obstacle, quoi. Bah, c'est le travail à chaque instant, pour entrer dans un autre pays, l'autre pays, qui est là tout le temps, en fait. Qui est le monde aussi, il ne s'agit pas de s'évader du monde, moi je veux y être vraiment, mais vraiment, enfin, trouver la présence la plus crépitante. Et ben, cette nuit, déjà d'une part, ça a été une chance inouïe, enfin, vous imaginez, on vous donne les clés d'un lieu en vous disant, tu seras tout seul, tranquille, toute la nuit, tu pourras regarder les œuvres que tu aimes, tu fais ce que tu veux. Sauf que quand la porte s'est fermée, je me suis dit, mais quelle idée j'ai eue, c'est pas possible. Parce que Bacon, évidemment, je l'ai choisi, hein, mais c'est une peinture redoutable. Et je me suis senti emprisonné dans un tombeau égyptien avec les tableaux qui sont coffrés derrière des vitres. Et avec les néons, il y avait des espèces de cavalcades de reflets qui m'ont cisaillé le regard, et puis la violence même des tableaux de Bacon, enfin, dans la nuit, comme ça, précipité seul avec eux, bon, j'ai eu peur, quoi, tout simplement. Et j'avais envie de dire, sortez-moi d'ici. Et je me sentais ridicule, et mon corps a réagi tout de suite en précipitant la chose, et j'ai eu une migraine atroce, mais le mot migraine a l'air charmant, un peu proustien, comme ça, on dirait que je suis en train de boire du thé, enfin, mais rien du tout, enfin, je caricature Proust exprès. Hein. À l'époque, j'y étais sujet, donc j'avais de quoi prendre, enfin, comme médicament. J'en ai trop pris, mais c'est une autre histoire, ça m'a fait un peu délirer. Mais cette cécité, toute proportion gardée, initiale face à la peinture, bah quand même, ça a été, j'ai bien compris, même s'il s'agissait de s'en extirper, j'ai bien compris qu'elle était initiatique, qu'il s'agissait peut-être de dépasser la simple vision, que peut-être cette première vision que j'aurais eue était insuffisante. C'est comme si le sorcier Bacon me disait, tu crois que tu vas me voir, essaye un peu de me voir. Et travailler à dépasser une vision, je ne sais pas comment dire ça, c'est pas superficiel, mais comme ça, immédiate, ça a été le début de cette pérégrination dans cette nuit vraiment initiatique. J'ai vraiment traversé ma propre nuit. Et il se trouve que le caractère un peu monstrueux de Bacon, qui quand même distord, comme vous le savez, disloque les corps, moi ça me fascine, mais bon, ça ne me met pas très à l'aise. Cet aspect-là de Bacon est devenu secondaire au fil de cette nuit. Plus je recouvrais la vue, plus mon corps retrouvait un état comme ça de disponibilité charnelle aux peintures, parce que je pouvais déambuler dans cette exposition parfois de manière enfantine, en courant, en criant de joie. Il y a eu des moments comme ça d'euphorie, et puis des moments d'abattement. Je me disais, qu'est-ce que je fous là, 2h du matin, j'étais fatigué. Et puis c'était à nouveau merveilleux, parce que je voyais un petit morceau du tableau que j'avais déjà vu 5 fois. Il y avait 8 salles. Je dis pas que j'ai vite fait le tour, mais au contraire, enfin, c'était circulaire et je passais d'un état à un autre. Et j'aime cette contradiction. Le rêve, ce serait de penser ensemble le oui et le non. Et au fur et à mesure, j'ai senti que des portes s'ouvraient, en fait. Bacon, dans ses dialogues avec David Sylvester, c'est un peintre qui a beaucoup parlé, en fait. Il y a un très beau volume d'entretien. Il parle de la porte bizarre. Et cette porte bizarre, en le lisant, je me disais, quoi, cette porte ? il m'a semblé le... Je ne sais pas si je l'ai poussé, je ne sais pas si j'étais de l'autre côté, parce qu'il y a des portes qu'on pousse et on reste toujours du même côté, en fait. Vous avez remarqué ? Non. Et c'est l'existence elle-même, voilà. Et il y avait des... Ce n'est pas des degrés dans l'initiation, on ne fait que s'initier à sa propre vie, au fait même de vivre, là. Il n'y a pas d'hiérarchie, on n'est pas en train de monter ou de descendre, enfin, moi, en tout cas. Mais c'est la vie même. Et peu à peu, j'ai aussi apprivoisé l'emprise que Bacon peut exercer sur le regardeur. Je ne voulais pas me laisser avoir complètement par ce peintre. Enfin, je redoutais un peu. Je me protégeais, mais pas trop. Si on se protège trop, on ne vit rien. Et dans cet entre-deux, il s'est mis à se passer quelque chose. Et j'ai vu. Un miracle. Non. Là, ce que j'ai vu, ça a été une cavalcade de couleurs tendres, une volupté, comme dit Bacon, quelque chose, non pas d'apaisé, parce que la peinture de Bacon, il faudrait vraiment être outrecuidant pour dire qu'elle est apaisée, alors là, franchement, mais quelque chose de, comment dire ça, je ne trouve pas le mot, presque d'amoureux, en fait. Je me suis rendu compte que les dernières toiles, enfin les dernières années, disons, et c'était représenté là dans cette exposition, mettaient en scène des robinets qui coulent, des effervescences, des jets d'eau et des dunes ondulées avec des formes très féminines, très charnelles. Et d'un coup, je me suis mis à regarder tous les autres tableaux, même les plus cauchemardesques, depuis ces formes-là, depuis cette effervescence bleue, depuis cette couleur qui m'a semblé être comme un, vous savez, comme une clé de sol au début d'une portée. D'un coup, j'ai pu lire et déchiffrer Bacon autrement, non pas comme un exégète, je suis un amateur, moi. Et j'ai vu ce bleu partout. Ça, c'est une parole de fou, ça. Il voit du bleu partout. Mais plus sérieusement, quelque chose, le bleu, c'est une couleur froide, et pourtant, cette couleur froide ne cesse de nous réchauffer. Et tous les bleus qu'a mis en œuvre Bacon forment une immense tapisserie, en fait, que j'ai reconnue, parce que j'ai cru voir le fond même de ce que je cherche dans l'existence, enfin, comme un ciel dans certaines églises toscanes, enfin, une limpidité, tout simplement. Et cet homme si tourmenté, cette peinture si terrible, est aussi, en même temps, je cite pas un homme politique là, c'est aussi en même temps quelque chose qui relève de l'éclaircie. Et je crois que s'il y a bien quelque chose qu'on aime tous, enfin moi particulièrement, c'est ça, c'est l'éclaircie, la Lichtung, la clairière, voilà. Cette clairière qui prend la forme d'une fontaine intarissable. Ben, elle est même chez Bacon. Et alors, dans la nuit, ça m'a, j'ai été pris comme ça de passion. Enfin, j'ai noté des choses en vol. Bon, ça ne servait pas à grand-chose, mais j'aime bien penser en écrivant sur mes petits cahiers. Et puis, je peux continuer un peu, non ?
Oui, oui. Oui, bien sûr, il nous reste quelques minutes, je vous en prie. Allez-y.
Et puis, j'avais eu, c'est pour finir là-dessus, j'avais eu aussi cette idée... puisque j'aime pas tellement les néons, la lumière artificielle, et je trouve que la peinture, surtout la peinture à fresque, enfin la peinture italienne, parce que j'ai vécu longuement en Italie, elle se voit même dans le noir, au fond, elle respire. Enfin, et j'avais eu l'idée un peu saugrenue de demander aux pompiers, dans une réunion préparatoire, je leur avais dit, est-ce que vous pourriez éteindre la lumière à un moment de la nuit ? Bon, ils étaient là, ils disaient, vous n'allez rien voir. Je dis, on verra. Enfin, et ils m'ont dit, bon, faites comme vous voulez. Enfin, okay. Et ils avaient programmé donc l'interruption de la lumière à 3h du matin. Bon, on s'était mis d'accord, 3h du matin. J'avais acheté une lampe torche là, chez Leroy Merlin à côté. Sauf que j'avais oublié que j'avais demandé ça. Et donc j'étais pris comme ça dans une extase d'amour pour la peinture. J'ai pris mon temps, quoi. Il y a des tableaux que j'ai regardés pendant plus d'une heure. Je variais les angles et tout. Enfin, je m'oubliais aussi. Et je me suis tellement oublié que, à un moment, plus d'électricité du tout. Et je peux vous assurer que dans ce coin de Beaubourg, qui ne donnait sur aucune vitrine extérieure, si je puis dire. Il faisait un noir, alors là, ce n'est pas le bleu nuit, hein, c'est le noir nuit. Et là, ça a été la panique, parce que je ne savais pas où j'étais. Comme j'avais tourné sur moi-même, un peu paniqué, je ne savais plus s'il fallait aller à gauche ou à droite pour rejoindre le petit sac que j'avais apporté sur le lit de camp, là, où il y avait ma torche. Donc ça, c'est un épisode un peu, si je peux me permettre, je vais dire une grossièreté, un épisode un peu à la con, que j'affectionne particulièrement comme situation dans la vie, parce que c'est romanesque, quoi. Et je vous dirai pas la suite parce que le suspense est insoutenable dans ce livre. C'est un pur thriller sur ma vie avec Francis Bacon. Mais voilà, je suis vivant, je suis là devant vous.
Et d'ailleurs, peut-être, et on va s'arrêter là-dessus, vous parler parce que c'est aussi un livre de sensations de quelqu'un. Vous parliez du qui-vive au début de la conversation. C'est quelqu'un qui est sur le qui-vive, vous en l'occurrence, et à la comment dire. Attentif aux signes, même les plus infimes, puisque vous dites que vous achetez cette lampe torche à Leroy Merlin, mais cela aussi a un sens, selon vous.
Ah ben oui, parce que tout a un sens, tout est signifiant. Enfin, pour peu qu'on écoute vraiment, dans Leroy Merlin, il y a le royaume, enfin, le roi, la souveraineté, et puis Merlin, c'est un magicien, mais c'est aussi un sorcier, parce que Merlin, vous savez, vous avez lu les textes médiévaux, drôle de type, hein. Très ambigu, un peu satanique. Et donc ça m'a fait rire cette nuit-là. Parfois, on rit tout seul de choses un peu infimes. Mais finalement, ce n'était pas sans rapport avec cette nuit, enfin, dans l'ambivalence de la féerie, de l'horreur, des choses grandioses et des choses ridicules, du haut et du bas, le roi et le sorcier.
Voilà. Et on retrouve aussi dans ce livre, on n'a évidemment pas eu le temps de tout aborder, mais c'est aussi des liens avec ce qu'on a évoqué au fil de cette conversation, puisque le lit de camp qu'on vous a mis à disposition fait écho au lit de camp de l'enfance et de l'Afrique. Il est question de Léris, il est question de bataille, il est question de Philippe Solers, évidemment, qui a travaillé autour de Bacon. C'est presque une mythologie portative. Et puis, il va falloir qu'on s'arrête, mais je vous en prie, allez-y.
Oui, une mythologie portative, c'est une belle définition de l'univers qu'on peut créer par la littérature. Enfin, c'est pas au sens où je serais enfermé là-dedans, mais c'est au sens où on fait passer comme ça en contrebande dans sa vie en essayant de le transmettre. C'est comme dans Moby Dick, je disais tout à l'heure, le narrateur Ismaël est comme Job dans le livre de Job. Il y a cette phrase merveilleuse. Et moi seul suis venu pour te le dire. Tout est dans te le dire. Il y a la solitude, I only alone, dans Melville, et moi seul suis venu pour te le dire. Et pour moi, la littérature, elle est adressée. Je cherche la limpidité. Je veux être le plus exigeant possible avec moi-même. Je veux pas me détourner de ma folie intime, de mes joies les plus complexes. Je veux arriver à les dire. Mais je veux arriver à les rendre, si c'est possible, désirables pour les autres. Voilà.
On a parlé donc de la série des livres, on va dire la série des Jean Deschelles, pour plus de simplicité, notamment Cercle, Les Renards Pâles, Tiens ferme ta couronne. Il existait d'ailleurs dans Introduction à la mort française, d'abord Jean. Je l'appelle Jean maintenant, comme si on était des vieux amis. Les livres autour de la peinture, le Caravage, et puis notamment ce Bleu Bacon. Je vous invite à retrouver l'ensemble de ces livres à la librairie. Je pense que la dédicace va avoir lieu à la librairie. Vous pouvez retrouver, ou juste là, pardonnez-moi, Yannick, pour un petit temps de discussion et puis pour une dédicace. Merci infiniment, mon cher Yannick. Merci de cette conversation.
Merci à vous, Yann.
Merci. Et merci de votre écoute.